Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Câștigător în Belgia al raliului pădurilor și smâlcurilor, al premiului întâi la clasa de 6 cilindri la Detroit, Aro continuă seria performanțelor sale internaționale.
Bonjour à tous. En Europe et au-delà, tout le monde connaît désormais la marque roumaine Dacia. Reprise par la société Renault, la marque low cost a connu un succès fulgurant et la ville Mioveni a considérablement profité de ce développement. À 60 km de là, une autre ville, Kampulung, n'a pas eu cette chance. À partir de 1957, on y a construit les voitures tout-terrain Aro, surnommées les bisons des Carpates, fleurons de l'industrie communiste roumaine. Aujourd'hui, tout a disparu après 46 ans d'existence. Ne subsiste qu'un musée automobile et beaucoup d'amertume. Le reportage de Benjamin Ribou.
Le déclin de l'usine Aro, à l'image de l'immense majorité de l'industrie roumaine communiste, a été brutal. En 2003, l'usine ferme. Pour Ion Cotescu, leader syndical de l'usine, ce clap de fin constitue bien entendu l'effondrement d'une industrie entière, mais aussi un drame social. En 1988, l'usine Aro comptait 13 000 employés pour 39 000 habitants en ville.
Voilà, on se trouve ici devant le club Aro, devenu ensuite la maison culturelle des syndicats, et puis plus récemment un centre commercial avec des petites boutiques qui vendent tout et n'importe quoi, des chaussures, des brosses à dents. Vous savez, le club Aro servait à développer la culture des travailleurs, leur apprendre à chanter, à réciter de la poésie, afin notamment de concourir face à d'autres entreprises du pays. Juste à côté, il y avait un théâtre et un cinéma. Nous avions des brigades artistiques et des équipes de théâtre composées de gens de chez nous, des travailleurs.
Ion Cotescu est un pur produit Aro. Entre 1975 et 2003, il y travaille d'abord comme technicien, puis ensuite au contrôle qualité. Il est régulièrement envoyé à l'étranger pour tester les véhicules en Grèce, en Chine ou encore au Danemark. Les modèles Aro s'exportent alors dans plus de 80 pays et connaissent un succès fulgurant. Durant des décennies, la marque participe pleinement à la construction de l'État socialiste.
Aro a ramené au pays plus de 1 milliard de dollars, tant en argent qu'en nature, car la Roumanie exporter aussi un système barter, un système de troc. Comme disaient les Grecs, on vous donne des olives, vous nous donnez des voitures. Et pas que des olives, des oranges, des citrons et d'autres produits contre nos voitures. Ce milliard a permis la construction de ce que vous voyez là, ces immeubles, le club Aro là, et puis les hôpitaux. On travaillait tout le temps à l'époque. On faisait les 3-8, le samedi et le dimanche inclus. D'ailleurs, j'ai récemment calculé que l'État nous a truandé l'équivalent de 6 ans de retraite.
Absence de modernisation, voitures vendues en sous-main, problème technique, le tournant des années 90 est un fiasco pour l'usine, au grand désarroi des employés qui y voient un sabotage organisé en haut lieu. Ion Cotescu mène alors la lutte au sein du syndicat Solidarité Aro pour sauver l'usine, en vain. La vente à un investisseur sud-américain pour une somme dérisoire sonne le glas des espoirs de redressement. Ce dernier file lui aussi en douce et laisse derrière lui un champ de ruines.
Là, on va tout droit.
Nous sommes donc ici sur le site de l'ancienne usine, c'est bien ça?
Oui, mais il n'y a plus rien. Je vais vous montrer. Tout a disparu. Il y a maintenant un soi-disant parc industriel qui effectue toutes sortes de bêtises. Dans ces immeubles, ici, vivaient nos jeunes célibataires. Arrêtons-nous pour bien voir. Là, ils ont tout rasé, tout a disparu. Vous voyez, c'est nous qui avons fait ce portail à l'époque. De ce côté-ci, il y avait l'ancienne section prototype. On voit plus loin où était la nouvelle section. C'est là-bas qu'on préparait les voitures pour les compétitions et aussi celles pour nos délégations à l'étranger, ainsi que les voitures que Ceausescu offrait à tous ses amis chefs d'État africains, Mobutu et compagnie.
Aujourd'hui, la société propriétaire du parc industriel utilise les deux hangars encore debout pour stocker des déchets toxiques importés. Une explosion spectaculaire s'est produite il y a quelques années dans l'une d'elles, mais rien n'a été évacué. Une fin sinistre pour Aro. Aux antipodes du succès tonitruant, 60 km plus au sud, de l'usine Dacia. La célèbre marque, qui appartient au groupe Renault, avait été pressentie à un moment donné pour relancer Aro, mais cela ne verra pas le jour. Dommage pour Kampulung, qui, comme tant d'autres villes de Roumanie, fait face à des départs massifs de sa main-d'œuvre à l'étranger.
La ville de Munich, en Bavière, ne connaît pas la crise. Elle est même en plein boom économique. Résultat, elle fait face à des problèmes que beaucoup d'autres villes aimeraient avoir. Ainsi, avec un taux de chômage de 3,9% au plus bas depuis 2015, l'administration a du mal à recruter du personnel. La ville vient donc d'imaginer une combine plutôt originale, Pauline Curtet.
Une opération de parrainage. La mairie de Munich met au défi ses employés de trouver des candidats pour les postes publics qui ont du mal à être remplis. Par exemple, des docteurs, des ingénieurs informatiques, des hauts fonctionnaires spécialisés ou des puériculteurs dans les crèches municipales. En échange, l'employé qui les a recommandés touche une prime. 1000 euros s'il s'agit d'un poste à plein temps, 500 euros s'il s'agit d'un apprenti, dans le cas bien sûr où le candidat a été embauché. Le service des ressources humaines de Munich, qui a lancé l'opération, ne dit pas combien de postes devraient ainsi être remplis. On sait seulement que l'an dernier, après une grande campagne de publicité qui vantait les conditions de travail de son administration, la ville a embauché près de 2000 nouveaux employés. Elle compte désormais plus de 35 500 salariés. Mais dans certains domaines, il lui arrive bien souvent de devoir se disputer les meilleurs profils avec le secteur privé qui propose de meilleurs salaires. Reste donc à savoir si les employés de la ville, reconvertis en chasseurs de têtes, trouveront suffisamment d'arguments pour convaincre ces précieux candidats de les rejoindre. L'opération est en phase d'expérimentation pendant 2 ans. La mairie décidera ensuite si elle veut la prolonger ou non. Mais une chose est sûre, pendant 2 ans, le parrainage prendra une toute nouvelle dimension dans la capitale bavaroise.
On rêvait juste de s'unir, nos langues mélangées, regarder le même avenir et ne plus se quitter, échanger chacun nos richesses et tout mettre en commun, pour qu'alors nos guerres cessent, enfin n'être plus qu'un.
N'être plus qu'un, une histoire de l'Europe que l'on peut désormais découvrir dans un nouveau lieu, à Bruxelles bien sûr, la Maison de l'Histoire Européenne. Elle a ouvert ses portes début mai, il aura fallu une dizaine d'années pour concrétiser l'idée d'un tel lieu. Il propose aujourd'hui plus de 4000 mètres carrés d'exposition. Le reportage d'Alice Debattisse de la RTBF.
Dans le hall de la Maison de l'Histoire Européenne, une grande sculpture en métal dentelé relie les 6 étages. Elle représente toutes les langues européennes, une manière d'illustrer la diversité. C'est un mot d'ordre, ici pas question de raconter une seule version des événements. Le musée propose un aperçu transnational de l'histoire. Andrea Monk est curatrice du musée.
C'est caractéristique de l'histoire européenne, la diversité. L'histoire européenne est pleine de contrastes et d'antagonismes. C'est ce que nous voulons illustrer dans notre musée. Réfléchissez à la Première Guerre mondiale. La mémoire d'une famille polonaise peut être complètement différente de celle d'une famille française ou allemande.
Une mémoire multinationale qui est racontée à travers des objets. On en trouve plus de 1500 dans cette maison de l'histoire européenne. Les visiteurs peuvent par exemple découvrir un tampon buvard qui a servi à sécher l'encre des accords d'Helsinki. D'autres objets sont beaucoup plus personnels. Comme ici au 3e étage, nous sommes dans la partie consacrée à la Première Guerre mondiale. Andrea Monk nous guide.
Nous parlons de la grande histoire, mais en même temps, nous voulons aussi raconter les histoires personnelles. Par exemple ici, c'est une série d'objets qui ont appartenu à des soldats. Nous avons la balalaïka d'un russe, nous avons la Bible d'un soldat allemand. Cette Bible lui a sauvé la vie en le protégeant d'éclats d'obus.
Dans cette maison, on veut donc représenter la diversité, les différents vécus, mais on veut également mettre en évidence ce qui nous rassemble. Allez, on fait un saut dans le temps. Nous sommes un étage plus haut dans les années 60. Nous retrouvons à côté d'une petite voiture vintage tchèque, une Zastava, Marjorie Vandenbroek, porte-parole pour le Parlement européen.
Ça, c'est la décoration du maison et les objets qu'on avait dans une maison et dans l'école, dans l'Europe de l'Est, dans les années 60, 70. Et à l'autre côté, vous voyez des objets dans les pays de l'Europe de l'Ouest, dans les mêmes périodes. Et vous voyez, oui, il y a des différences, mais quand même, dans la vie quotidienne, on n'était pas si différentes.
Ce musée veut également devenir un lieu de débat. Quelques volets d'escalier plus loin, on arrive au dernier étage. Une membre de l'équipe éducation nous accueille.
C'est un peu le point final donc, de la visite dans le musée, de la visite de l'exposition permanente. Et comme vous le voyez, c'est un espace qui est beaucoup plus vide que le reste du musée, beaucoup moins scénographié aussi. Vous avez ce grand dôme dans lequel un film a été fait. Alors là, c'est un peu cette idée justement de condenser, synthétiser toute la visite, mais d'une façon plus onirique, plus artistique, disons, avec vraiment plein d'images qui reprennent des thèmes ou des moments de l'exposition et qui sont construites ensemble et qui, pareil, il y a beaucoup d'images contemporaines et d'images historiques qui se rejoignent, qui sont un peu mêlées pour créer cette rencontre du passé, du présent et donc du futur.
Ici, on s'interroge donc sur l'avenir de l'Union européenne. Des objets à nouveau sont là pour stimuler la réflexion. Dans une vitrine, on peut voir des pins et des t-shirts portés par des Britanniques le soir du référendum sur le Brexit. Alors concrètement, comment peut-on participer au débat ? Eh bien, à la fin, les visiteurs sont invités à remplir un questionnaire sur le futur européen. Une manière peut-être de participer à l'écriture d'une nouvelle page de notre histoire.
Ice cream of all flavors, especially chocolate and vanilla.
L'été approche enfin, synonyme de crème glacée. Et dans ce domaine, la Turquie a sa spécialité, la glace de Maraş. Une gourmandise hors du commun, un plaisir pour les papilles, autant qu'un spectacle pour les yeux, à Nandlauer.
Si l'on voulait risquer une allitération, on dirait que la glace de Maraş se mâche. Cette crème glacée turque, qu'on surnomme aussi la dövme dondurma, la glace frappée, est née dans la province du même nom, Maraş, devenue Karaman Maraş. Très éloignée des sorbets sucrés, cette glace a une texture onctueuse, épaisse, élastique, quelque part entre la crème et le chewing-gum. Elle doit son goût et sa texture autant à sa composition qu'à sa préparation. Du lait de chèvre, du sucre et de la poudre de salepe. Ce dernier ingrédient, la clé de la recette, est obtenu après broyage de bulbes d'orchidées séchées, que l'on trouve encore à Maraş, même si la fleur tend à s'éteindre. Pour obtenir la bonne consistance, il faut mélanger, mélanger et mélanger encore. Et c'est d'ailleurs ainsi qu'on sert traditionnellement la glace de Maraş. Le marchand plonge dans le mélange une tige en métal de plus d'un mètre qu'il agite vigoureusement. Il retire ensuite le bâton avec à son extrémité un gros morceau compact de glace. Le vendeur fait tourner le bloc afin d'étirer le mélange, puis il s'arrête, brandit la tige de métal en l'air et la crème glacée devenue élastique s'écoule lentement. La glace est prête, le vendeur en dépose une boule dans un cornet avant de le tendre au client. Parfois le service devient spectacle, la boule reste accrochée à la tige et le gourmand se retrouve avec un cornet vide, ou servi à l'envers, ou bien sans le cornet. Le tout rythmé par des clochettes que le vendeur fait tinter en les frappant avec la tige. Un amusant tour de passe-passe qui fait oublier que cette glace est surtout produite désormais de façon industrielle, à moins de se rendre à Maraş pour déguster l'original.
Music.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Difficile de rester de glace à votre proposition de la semaine.
Je vous propose aujourd'hui un voyage musical du côté du jazz avec le troisième album du Blazin Quartet, ensemble fondé par le batteur Serdian Ivanovic qui entend y associer la philosophie de la musique orientale et l'inattendu du jazz. Une approche nourrie par un parcours entamé à Sarajevo que le garçon doit quitter en 1992 pour fuir la guerre avec son père qui lui est guitariste et compositeur de musique classique. La suite prend place à Athènes, puis aux Pays-Bas où Serdian Ivanovic est diplômé au conservatoire. Depuis 2014, il vit à Paris où il continue de diriger son Blazin Quartet fondé il y a presque 10 ans et qui évolue aux frontières des genres avec une souplesse et une élégance rare. Son nouvel album s'intitule « La mer, la pierre, la terre, l'oiseau » et on y retrouve quelques invités dont la chanteuse Jovana Kerstevska qui interprète une chanson macédonienne d'Ebrani.
Что настанали, азби подали.
Et c'est avec cette chanson macédonienne extraite du dernier album du Blazing Quartet que nous refermons cette dernière édition de la semaine, Accent d'Europe, réalisée et mise en onde par Françoise Grelot. À lundi dès 17h40 en universel.